Vous écoutez, on lit pour vous.
Vers une alimentation durable, une bouchée à la fois. Un texte de Nathalie Ainsley, paru à l'automne 2024 dans la revue Virage. L'adoption d'une alimentation durable comporte de nombreux bénéfices pour votre santé et votre portefeuille et contribue à la sécurité alimentaire de votre progéniture. Depuis des millénaires, les humains se sont nourris en harmonie avec la nature, assurant la subsistance des générations présentes et à venir. L'industrialisation de notre système agroalimentaire a changé la donne. Basée sur la monoculture, les pesticides, les engrais chimiques, la machinerie et le transport sur de longues distances, il n'est pas soutenable. Les méthodes de production intensive surutilisent et polluent l'eau, dégradent les sols, détruisent les écosystèmes et la biodiversité, et émettent des gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. Dans ce système, au-delà du tiers des aliments sont jetés, quelque part entre le champ et l'assiette, et la plus grande portion des grains cultivés est dédié à nourrir le bétail pour leur viande, plutôt qu'à nourrir directement les humains. C'est ce qui le rend inefficient en comparaison à la culture paysanne qui nourrit encore aujourd'hui plus de 70 % de la population mondiale en utilisant moins de 25 % des ressources. Sachant cela, voici quelques conseils pratiques afin qu'une bouchée à la fois, vos choix allient le plaisir de manger, votre santé et celle de la planète. 1. Soutenir l'agriculture respectueuse de l'environnement. Encouragez l'agriculture locale ou urbaine en fréquentant les marchés publics et en vous abonnant à des services de livraison, comme les fermes LUFA, montréal.lufa.com, ou le réseau des fermiers et fermières de famille, fermiers de famille au singulier.org. Vous découvrirez de belles variétés de produits d'ici, de saison et sans intermédiaire. Bien que les produits biologiques puissent parfois être plus coûteux, plusieurs sont moins chers en saison. Sans pesticides ni engrais chimiques, les cultures biologiques ou régénératives assurent le maintien dans le temps de la fertilité des sols, préservent l'eau potable et favorisent la survie des insectes pollinisateurs. Ça vaut le coup! 2. Prendre soin de sa nourriture. Une grande partie du gaspillage alimentaire se produit à la maison. Des centaines de dollars sont ainsi perdus par les ménages chaque année. Planifiez vos repas, conservez correctement vos aliments et utilisez les restes de manière créative. Soupe, potage et compote offriront une deuxième vie à vos fruits et légumes défraîchis. Par ailleurs, plusieurs épiceries offrent des rabais importants sur les denrées dont la date de péremption est imminente. Et en passant, meilleur avant ne veut pas dire mauvais après. 3. Diminuer la viande. Comme recommandé par le Guide alimentaire canadien, augmentez la part des légumes et des grains entiers dans votre assiette et réduisez la quantité de viande. Vous vous en porterez mieux. Site web guide-alimentaire.canada.ca. Pour une même quantité de calories, le bœuf génère 11 fois plus de gaz à effet de serre, occupe 160 fois plus de territoire et demande 8 fois plus d'eau que son équivalent végétal. Les légumineuses, noix, graines et céréales complètes sont des alternatives savoureuses, variées et économiques. Elles sont riches en protéines, en fibres, en vitamines et en minéraux, tout en étant faibles en gras. Apprenez comment les apprêter avec la cuisine de Jean-Philippe. La cuisine de Jean-Philippe.com. Louni Cuisine. L-O-O-U-N-I-E cuisine.com ou la section végétarienne de Ricardo. ricardocuisine.com/thème (au pluriel) / végétalien (au singulier). La rubrique Côté cuisine dans Virage vous propose aussi de bonnes recettes végétariennes. Lorsque vous souhaitez manger de la viande, privilégiez la volaille, qui a une empreinte environnementale moindre que le bœuf. 4. Manger sainement et cuisiner. Variez vos menus pour combler tous vos besoins en nutriments et cuisinez davantage afin de contrôler la provenance, la quantité et la qualité des ingrédients. Évitez les produits transformés qui contiennent des ingrédients de faible qualité nutritionnelle, des additifs chimiques et souvent trop de gras, de sel ou de sucre. Ces ingrédients, comme l'huile de palme utilisée dans la majorité des produits transformés, sont souvent issus de pratiques dommageables pour l'environnement, déforestation, modification génétique, OGM, utilisation massive de pesticides. 5. Cultiver ses propres aliments. Jardiner contribue au bien-être physique et psychologique et vous donne accès à de la nourriture fraîche, savoureuse et biologique à faible prix. On peut faire pousser beaucoup sur un balcon, un petit carré de terre et même sur le rebord d'une fenêtre. De surcroît, les jardins communautaires permettent de socialiser et de briser l'isolement. 6. Choisir des produits issus de pêcheries durables. La surpêche et les méthodes industrielles, comme le chalutage de fond, détruisent les écosystèmes marins et épuisent les stocks de poissons. Optez pour des poissons et fruits de mer certifiés durables par le MSC, Marine Stewardship Council, ou Ocean Wise. Et privilégiez les petits poissons à base de la chaîne alimentaire, comme le hareng, le maquereau et la sardine. Ils sont nutritifs, moins chers, contiennent moins de contaminants et se reproduisent rapidement. 7. Diminuez vos déchets. Compostez. Les déchets de table compactés dans les sites d'enfouissement émettent des GES et polluent les sources d'eau. Lorsque compostées, ces matières produisent plutôt un engrais qui enrichit les sols. D'autre part, acheter en vrac permet de réduire les déchets plastiques et de faire des économies, en payant seulement pour la quantité dont on a besoin. Apportez vos sacs et contenants réutilisables et choisissez vos fruits et légumes non emballés. Récupérez les emballages recyclables et, encore mieux, réutilisez-les. Le plaisir de manger. Lorsque vous savourez un bon repas, en plus du plaisir gustatif des saveurs, ressentez la satisfaction de savoir qu'avec vos choix, vous faites en sorte que vos enfants et petits-enfants puissent, eux aussi, goûter à ces plaisirs, et ce, leur vie durant. Pour en apprendre plus, L'envers de l'assiette, Laure Validel, édition Éco-Société. Sauver la planète une bouchée à la fois, Bernard Lavallée, édition La Presse. C'était « Vers une alimentation durable, une bouchée à la fois », un texte de Nathalie Hainsley, paru à l'automne 2024 dans la revue Virage.
Les agriculteurs et leurs alliés veulent que Québec mette les terres de Rabaska en fiducie. Un texte de Sarah R. Champagne paru le 5 juin 2024 dans Le Devoir. L'Union des producteurs agricoles de Lévis, UPA, la Relève agricole, Équitaire, une alliance d'organisations et un collectif de citoyens réclament que toutes les terres du défunt projet Rabaska soient mises en fiducie. Alors même qu'on apprend que Québec veut soustraire le dossier des mains de la Commission de protection du territoire agricole, CPTAQ, tous ces acteurs régionaux lui enjoignent plutôt de protéger l'entièreté des 272 hectares de territoire à des fins agricoles et de conservation. Les terres de Rabaska sont devenues, dans les derniers mois, un nouveau symbole d'intérêt difficile à concilier. Exclues par décret de la zone verte en 2007 pour faire place à un projet de port méthanier aujourd'hui abandonné, elles attirent la convoitise de la ville de Lévis comme du port de Québec. Le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a officialisé le rachat de cet espace le 21 février 2024 au coût de 38 millions de dollars. La veille, la ville de Lévis sollicitait le gouvernement pour l'aider à y implanter un parc industriel. Une version d'un décret ministériel obtenu par Radio-Canada indiquerait maintenant que le gouvernement souhaite quant à lui reprendre le contrôle avant que la CPTAQ ne donne ses orientations préliminaires après une échéance déjà repoussée trois fois. Ceinture verte. Mais les tenants d'une remise totale en agriculture et en conservation naturelle font front commun et tentent de prendre les devants avec une tout autre proposition. On veut dire qu'une ceinture verte est possible plutôt qu'une ceinture de béton avec des industries, signale Françoise Legault, productrice maraîchère de la région et porte-parole du collectif Sauvetage pour le patrimoine agricole à Lévis et Beaumont. On peut faire le pari que les gens de Lévis seront heureux de pouvoir continuer de se ressourcer en nature et avoir accès à une agriculture de proximité et diversifiée, ajoute-t-elle. Une fiducie permettrait de protéger, de manière irréversible et permanente, le terrain, indique Jean-Paul Tardif, producteur acéricole et président du syndicat de l'UPA de Lévis, en conférence de presse. Une telle structure permettrait de poursuivre la culture de pommes de terre présentement en cours sur une soixantaine d'hectares, de développer davantage le potentiel acéricole et d'assurer la connectivité d'îlots de nature qui favorisent la biodiversité. Nous savons que les Lévisiens et Lévisiennes appuieront cette démarche, affirme-t-il, confiant. Ces acteurs locaux ont souhaité parler d'une voix commune pour réitérer qu'il s'agit d'un actif d'une valeur inestimable, autant pour l'agriculture, l'environnement que pour les gens. L'emplacement de ces terres est spectaculaire, avec des vues exceptionnelles sur le fleuve Saint-Laurent et l'île d'Orléans, et représente l'un des endroits de la province où l'agriculture est implantée depuis plus de 300 ans, rappelle-t-il. Plus de 600 000 mètres carrés de milieu humide se trouvent également sur le site, soit trois fois la superficie de ceux du projet de Nordvolt, selon le collectif de citoyens. Québec a récemment été critiqué pour son incapacité à empêcher la destruction de milieux humides malgré une loi adoptée en 2017. La mise en fiducie éloignerait toutes les menaces qui pèsent sur les terres agricoles, a quant à lui fait valoir Tommy Labrie, producteur laitier qui représente la relève agricole de Chaudière-Appalaches, soit l'urbanisation, l'industrialisation, la spéculation et à plus long terme le dézonage. Le prix des terres de la région est devenu inabordable pour la grande majorité des agriculteurs. La solution proposée permettrait donc de créer une banque de terres accessibles pour la relève et de maintenir une diversité de modèles agricoles, a appuyé Carole-Anne Lapierre, analyste en agriculture pour Équitaire et coordonnatrice de l'Alliance Salutaire. Le plan de sauvegarde de cette coalition prévoit aussi la poursuite des activités de plein air qui s'y déroulent déjà, à l'avantage des citadins de Lévis, notamment le ski de fond, dans un centre installé sur le site, plaide-t-il. C'était « Les agriculteurs et leurs alliés veulent que Québec mette les terres de Rabaska en fiducie ». Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 5 juin 2024 dans Le Devoir.
Six jours au soleil, planifiez plus tôt que tard. Un texte de Sécurité Globe, paru à l'automne 2024 dans le magazine Virage. L'automne s'installe. Et vous commencez déjà à rêver de quitter le froid pour retrouver la chaleur? N'oubliez pas, planifier un voyage requiert du temps et une organisation minutieuse. Voici quelques astuces à garder à l'esprit pour rendre votre séjour au soleil plus agréable. Revoir vos habitudes. En 2022, près de 900 000 snowbirds provenant du Canada, dont 250 000 du Québec, ont passé l'hiver sous le soleil du sud des États-Unis, notamment en Floride. Mais avec le temps, leurs préférences évoluent. Aujourd'hui, de nombreuses personnes retraitées optent pour des destinations plus exotiques comme le Costa Rica et le Mexique, voire l'Europe, surtout l'Espagne et le Portugal. Cette tendance reflète une volonté d'explorer de nouvelles cultures et de bénéficier de coûts de la vie plus avantageux. La popularité croissante de ces destinations occasionne toutefois un achalandage comparable à celui que l'on constate en haute saison. Pour éviter les désagréments, renseignez-vous afin de choisir une période plus tranquille. Prévoir l'hébergement et le transport. Planifier les piliers de votre voyage vous offre non seulement la quiétude, mais également une base solide sur laquelle organiser vos activités à destination. Choisir son hébergement à l'avance, par exemple, vous permet d'optimiser votre budget en vous assurant de sa proximité aux divers attraits de la région. Vous pourrez aussi vérifier qu'il répond à vos besoins en matière de commodité, golf, tennis, pickleball, Wi-Fi, repas inclus, transport public à proximité, rabais sur les activités, etc. De plus, cela vous permettra de planifier efficacement vos déplacements et vos moyens de transport, location de voiture, achat de billets de train, etc. Voyager avec vos médicaments. Vous avez une condition médicale complexe? Voici quelques points importants à garder en tête avant votre départ. Renseignez-vous sur la légalité de vos médicaments dans votre pays de destination. Conservez vos médicaments dans leur emballage d'origine étiqueté et prévoyez un surplus. Ayez avec vous une copie de l'ordonnance originale et une note du médecin expliquant la raison pour laquelle ce médicament a été prescrit, fortement recommandé. Visitez www.voyage.gc.ca. Assurer son voyage. Personne n'est à l'abri d'un accident, même à l'étranger. Ainsi, veillez à vous doter d'une assurance voyage adéquate qui couvre l'ensemble de vos besoins. Analysez vos protections actuelles, collectifs, cartes de crédit, en portant une attention aux moindres détails. Souvent, des conditions et des exclusions peuvent limiter votre couverture, voire l'annuler. Peu importe votre profil de voyageur, vous devriez minimalement vous procurer une protection de type médical d'urgence. Celle-ci couvrira les frais médicaux en cas d'urgence à l'étranger et vous évitera des factures de soins salées. En complément, selon votre tolérance au risque, des protections de type annulation et ou interruption et bagages peuvent s'ajouter à la pièce selon les paramètres de votre voyage. Dernière astuce. Pour maximiser vos recherches d'assurance voyage, contactez un courtier dont les représentantes et représentants sont certifiés. Ils vous guideront vers le meilleur produit au meilleur prix selon votre condition de santé. N'oubliez pas, une bonne planification vous permettra de profiter au maximum de votre séjour. Bon voyage! C'était « Séjour au soleil, planifié plus tôt que tard », un texte de Sécurité Globe paru à l'automne 2024 dans le magazine Virage.
Exposer les bébés aux arachides réduit les risques d'allergie, un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 août 2024 dans la presse. Donner des arachides aux bébés permet de réduire les risques d'allergie, confirme une nouvelle étude montréalaise. Cette stratégie avait été proposée par une étude en 2015, mais c'est à ce jour la preuve la plus complète qu'elle fonctionne. Que dit la nouvelle étude? En 2017, des recommandations canadiennes ont conseillé d'exposer les bébés aux arachides avant l'âge de 1 an, sur la base d'une étude publiée en 2015. Les chercheurs de l'Institut de recherche du CUSUM ont analysé 429 cas d'allergie grave aux arachides de l'hôpital de Montréal pour enfants entre 2011 et 2019. À partir de 2017, chez les moins de 2 ans, la fréquence de ces cas a commencé à diminuer. La fréquence des nouveaux cas d'allergie aux arachides pour des patients n'ayant jamais eu de diagnostic préalable est passée de 40 à 20 cas pour 100 000 visites. On ne savait pas quel serait, dans le monde réel, l'impact des nouvelles recommandations de 2017, explique Moshe Ben-Shoshan, l'auteur principal de l'étude publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice. Les données, après 2019, n'ont pas été utilisées parce que la pandémie a changé le profil des visites aux urgences. Les réactions allergiques graves étaient généralement de l'anaphylaxie, un arrêt respiratoire. Pourquoi donner des arachides aux bébés diminue-t-il le risque d'allergie? Parce que le système immunitaire des bébés est en formation. L'exposition à un aliment enseigne au système immunitaire à le tolérer, explique le docteur Ben-Shoshan. Ce phénomène est parfois appelé hypothèse de l'hygiène. La diminution de l'exposition aux bactéries et aux allergènes dans le monde moderne aurait rendu les systèmes immunitaires des enfants plus susceptibles de surréagir. Les premières études dans les années 1980 et 1990 ont montré que l'asthme est moins fréquent dans les familles ayant plus d'enfants et aussi chez les Allemands de l'Est, exposés à davantage de pollution par rapport aux Allemands de l'Ouest. D'autres études similaires ont-elles été publiées? En 2022, des chercheurs australiens ont montré que la fréquence des allergies avait augmenté plus rapidement avant les recommandations d'exposer les bébés aux arachides qu'après. Mais selon le docteur Ben-Shoshan, l'étude montréalaise est la première à vérifier si une visite aux urgences pour une anaphylaxie était un premier diagnostic pour le petit patient. Limiter l'analyse au premier diagnostic permet de ne pas tenir compte des bébés très allergiques aux arachides qui se rendent plusieurs fois aux urgences pour ce problème, gonflant le nombre de visites totales. Est-ce que la fréquence des allergies aux arachides va continuer à baisser? Probablement, selon le chercheur du CUSUM. On ne sait pas quelle proportion des parents a appliqué les recommandations de 2017, dit-il. Mais probablement qu'ils sont plus nombreux à le faire maintenant. Cette nouvelle étude pourrait aussi convaincre les parents inquiets de donner des arachides à leur bébé. Mais attention, il ne faut pas donner une arachide ou des morceaux d'arachide pour éviter que le bébé s'étouffe. L'exposition à l'arachide chez les bébés de moins de 1 an devrait se faire avec du beurre d'arachide au doigt ou à la cuillère, selon Noémie Rouillard-Bazinet, ORL pédiatrique au CHU de Québec. Faut-il continuer l'exposition aux arachides? pendant toute l'enfance? Probablement pas, selon le docteur Ben Shoshan. Quand on fait l'exposition aux arachides avant l'âge de 1 an, il faut le faire plusieurs fois, tous les mois. Mais une fois que la tolérance s'est installée, ce ne devrait pas être nécessaire de continuer. D'où vient l'idée que l'exposition précoce aux arachides est bénéfique? Les mêmes chercheurs qui ont fait l'étude définitive sur le sujet en 2015 ont placé le premier jalon de ce changement de paradigme en 2008, selon le docteur Ben Shoshan. Inspirés par l'hypothèse de l'hygiène, ils ont comparé la fréquence des allergies aux arachides chez 10 000 petits juifs en Angleterre et en Israël. En Israël, les arachides faisaient partie de l'alimentation des bébés, mais pas en Angleterre, explique le chercheur montréalais. Les taux d'allergie aux arachides étaient 10 fois plus élevés en Angleterre. L'étude était limitée aux juifs pour étudier 2 populations à la génétique similaire. Les taux d'allergie aux arachides ont cependant augmenté chez les enfants montréalais plus vieux. Pourquoi? L'augmentation n'est pas significative, nuance le docteur Ben Shoshan, mais il y a des explications reliées à l'hypothèse de l'hygiène. Quelles sont les prochaines questions de recherche sur ce sujet? Il faut voir si les autres provinces, avec des profils génétiques différents, voient aussi une diminution des allergies aux arachides chez les bébés, dit le docteur Ben Shoshan. On va aussi vouloir examiner d'autres allergènes pour voir si l'exposition des bébés à d'autres aliments peut avoir le même effet. Est-ce que la même stratégie pourrait être utilisée pour l'intolérance au lactose? Non, c'est complètement différent, dit le docteur Ben Shoshan. C'est lié au métabolisme du lait. Ça nous intéresse moins parce que ce n'est pas dangereux pour la vie de l'enfant. En savoir plus, 2,5 fois, augmentation des coûts médicaux pour un patient pédiatrique allergique aux arachides par rapport à ceux qui n'ont pas d'allergie aux États-Unis. Source, Journal of Managed Care and Specialty Pharmacy. C'était « Exposer les bébés aux arachides réduit les risques d'allergie », un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 août 2024 dans la presse.